France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il y a des moments où on a besoin de s'arrêter sur l'actualité internationale, reculer d'un pas, essayer de comprendre où nous embarquent nos pays et les autres après Gaza, pendant Gaza. Un nouveau front s'est ouvert en Iran qui fait bouger le centre de gravité de notre attention. Nous sommes au jour 6 de cette nouvelle guerre. Iran-Israël est toujours dans l'attente de savoir ce que les États-Unis vont faire, entrer dans cette guerre en dépit des promesses de campagne de Donald Trump de ne plus jamais impliquer les États-Unis dans un conflit ou pas. On va se poser la question, comme nous l'avons fait d'ailleurs tout à l'heure en première heure, de sa colonne vertébrale. Est-ce que le président américain sait où il va? Il y aura des dommages irréparables si les États-Unis entrent en guerre. C'est ce qu'a dit ce matin le guide suprême iranien, lui-même visé quasi explicitement par Israël, ce qui n'élargirait pas le conflit, mais au contraire l'arrêterait net. C'est le calcul de Benjamin Netanyahou, ce qu'il répète inlassablement. Nous en discuterons avec nos invités et bien sûr avec vous. Et voilà que remonte donc cette petite musique, déjà entendue il y a des années, un changement de régime qui serait la solution à tout, une musique entendue évidemment en Irak et pas seulement. Est-ce que les choses seraient complètement différentes cette fois? Qu'est-ce qui se passerait si le guide suprême tombait? Quand Benjamin Netanyahou dit qu'il entend changer la face du Moyen-Orient, est-ce que c'est déjà fait? Il domine cette région par la force désormais. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord et surtout où il s'arrêtera. Nous sommes dans une séquence où le droit international a volé en éclats, c'est pas la première fois, où Friedrich Merz remercie Israël de faire le sale boulot, fermer les guillemets, et tout cela bien sûr au milieu des civils, les civils iraniens qui détestent leur régime, mais peut-on réfléchir à un après sous les bombes, les civils israéliens qui détestent aussi pour beaucoup leur gouvernement, mais ce gouvernement a visiblement plus de vie qu'un chat. Est-ce que la porte des négociations est définitivement fermée? Ça n'aurait plus aucun sens. Que cherche Benjamin Netanyahou? Que cherche Donald Trump? Que cherchent les Européens? Pourquoi on n'entend pas le monde arabe? Essayons de comprendre un peu tout ça ensemble. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sophie, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir,
ma
question est simple. Merci de prendre l'appel. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, carte blanche est laissée à Monsieur Netanyahou, qui désosse toute la région. Le Hamas, le Hezbollah, encore bon, qui laisse les Gazaouis dans quelque chose, une terreur horrible. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas, Monsieur Trump, qui est censé être le pilote, donne l'impression de ne pas du tout savoir où il va, ce qu'il fait. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Est-ce qu'on peut penser quand même qu'un gel global de cette situation permettrait de remettre la balle au centre et de discuter? On arrête tout, on arrête le cessez-le-feu. Oh non, on commence le cessez-le-feu, voilà.
Le lapsus est intéressant dans l'état où le monde va, Sophie, merci beaucoup. Mais on a entendu où étaient vos interrogations pour essayer d'y répondre. Autour de cette table, il y a Dorothée Schmitt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue responsable du programme Turquie-Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Il y a Armin Arifi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient, et Corentin Célin, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, vous enseignez en classe prépa au lycée Carnot de Dijon. Je vais commencer avec vous, Dorothée Schmitt. Notre amie Sophie nous demande s'il y a un pilote de l'aide dans l'avion. J'ai envie presque de reformuler en vous demandant si désormais c'est Netanyahou qui pilote et qui va exactement où il veut en ce moment.
Oui, c'est ça, votre formulation est pas mal. Sinon, la question s'adresserait à mon voisin sur les États-Unis.
Exactement, il va y aller, le voisin.
Donc, effectivement, les avions israéliens ont décollé. Ils ont tous des pilotes. Netanyahou pilote Israël et il pilote la réorganisation stratégique d'un Israël qui cherche à surmonter le traumatisme du 7 octobre. Tout aujourd'hui est subsumé à cette vision géopolitique israélienne. Je crois que c'est un peu notre problème aussi dans la compréhension de la région. Moi, je m'intéresse à la réaction qu'ont les autres acteurs face à toutes les offensives israéliennes, ces fronts, un quatrième front qui s'ouvrait. Moi, j'avais un peu de mal à y croire à partir du moment où les autres fronts sont quand même pas complètement fermés, notamment le front syrien qui sur lequel les Israéliens sont assez actifs, même si c'est encore de manière peu intensive. Donc pour le moment, effectivement, c'est Netanyahou le pilote. Est-ce qu'il y a une tour de contrôle? C'est ça la question.
Corentin Célin, on se posait la question tout à l'heure en première heure en se demandant si Donald Trump, là-dedans, essayait de rattraper l'avion, pour rester sur cette métaphore-là, mais sans trop savoir effectivement dans quelle direction-là, s'il a perdu le Nord, en fait. Notre auditrice disait, d'habitude, le point de convergence, c'est celui-là, mais j'ai presque envie de vous demander si ça fait pas un bail, de toute façon, que ce point de convergence-là s'est un peu envolé, quoi.
Oui, effectivement, on a l'impression d'un Donald
Donald Trump à la remorque des événements et de Benjamin Netanyahou. Il faut rappeler rapidement une toute petite chronologie. Il faut se rappeler qu'il y a trois mois, il a lancé un processus de négociation avec l'ayatollah Khamenei, à qui il a écrit de manière, il s'en est vanté d'ailleurs, de manière assez spectaculaire. Et ces négociations avaient pour but d'amener une solution diplomatique vis-à-vis de l'arme nucléaire iranienne. Ce qui s'est passé, c'est que ces négociations se sont vite enlisées. L'ayatollah Khamenei a opposé une fin de non-recevoir aux propositions américaines il y a une dizaine de jours. Et dans le même temps, et ça, c'est là où, en fait, où il a perdu l'initiative, pour reprendre la question de Sophie, c'est que dans le même temps, Trump a appris que, pour la première fois, Israël irait à l'offensive sans demander en fait l'avis américain. Et donc il avait deux choix, c'est-à-dire ou bien laisser Israël éventuellement s'emparer seul d'un éventuel effondrement du régime iranien, ou en tout cas de la réussite de certains objectifs stratégiques, ou bien essayer de monter en cours d'opération, et c'est ce qu'il essaye de faire, sauf qu'évidemment ça contrarie complètement ses promesses, et au-delà même de ses promesses électorales, ça contrarie son ADN politique qui était fondé sur le refus systématique des guerres, des engagements guerriers au Moyen-Orient. Et on voit bien que dans une partie de son électorat et une partie de ses soutiens, ça ne passe absolument pas aux États-Unis.
Et on y viendra à ses soutiens, effectivement. Armin Arefi, dans ce premier tour de table que nous faisons, la question que j'ai envie de vous poser, c'est et parce que ça a un sens dans ce qu'on est en train de voir là, est-ce que le régime des Mollahs est en train de s'effondrer? Est-ce qu'on est au bord de la rupture, ou est-ce qu'on est en train de prendre nos désirs pour des réalités à certains égards, à la fois nous, mais peut-être aussi Israël en ce moment, qui envoie ce genre de message? Et comme le disait Corentin Célin à cet instant-là, Trump aussi, les États-Unis peut-être, parce que si le régime s'effondre, il faudrait bien aller aussi essayer d'en tirer les billes. Donc est-ce qu'on se dit qu'il est en train de s'effondrer ou pas du tout?
Non, je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'il est en train de s'effondrer. Il a été décapité, notamment au niveau de son commandement militaire. Ses sites nucléaires ont été touchés, en tout cas pas tous. Il en reste un, le plus important, celui de Fordow, sous une montagne. Il a ses défenses antiaériennes qui sont complètement détruites. Et comme l'a souligné d'ailleurs lui-même Donald Trump, le ciel iranien appartient aujourd'hui à Israël. Maintenant, il en faudra beaucoup plus pour faire renverser ce régime. Et il faudra avant tout des forces au sol, qui pour l'instant n'est pas le cas, et n'est pas prévu ni par les Israéliens, ni par les, et encore moins par les Américains. Aujourd'hui, voilà, le sentiment d'humiliation est total. C'est surtout en fait le degré de pénétration du Mossad en Iran qui apparaît comme énorme, et surtout l'incapacité des forces iraniennes, des forces de la République islamique, de répondre au bombardement israélien. Certes, un grand nombre de missiles balistiques, environ 400, ont été renvoyés sur Israël, mais jusqu'à preuve du contraire, la grande majorité d'entre eux, c'est-à-dire de 80 à 90%, ont été interceptés par le dôme de fer israélien. Donc, pour répondre clairement à votre question, non, le régime n'est pas en train de s'effondrer. Oui, il est ébranlé comme jamais depuis, on va dire, la fin de la guerre Iran-Irak en 1988. La question c'est, et maintenant...
Mais la capacité d'ailleurs, Armin Arefi, parce que je vous entendais parler du nombre de missiles qui ont été lancés, la capacité iranienne n'est pas sans fond, si?
Non, elle n'est pas sans fond. D'après les estimations qu'on a, c'est de 2000 à 3000 missiles balistiques. Donc, il en reste quand même un certain nombre.
S'il y en a 100 à 150 par jour, cela dit, ça va vite.
Ça va vite, mais comme je vous l'ai dit, là, pour l'instant, on en serait à un total de 400 missiles qui auraient été envoyés d'après les informations israéliennes. Bien sûr qu'elle n'est pas sans fond. Elles ne réussissent pas, ou alors très peu, à percer les défenses israéliennes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le régime est engagé dans une guerre pour sa survie, et qu'il a d'autres moyen dans sa besace, si je puis dire, à savoir une perturbation peut-être par exemple du trafic maritime et donc pétrolier dans le détroit d'Ormuz, ce qui constituerait un casus belli pour les Américains, ou alors de s'en prendre peut-être au maillon faible, si je puis dire, dans la région, à savoir les pays arabes du Golfe qui sont actuellement tétanisés, peut-être devenir les dommages collatéraux des Iraniens, qui ont d'ailleurs déjà par exemple visé l'Arabie Saoudite en 2019 lors des frappes officiellement attribué outils contre le complexe pétrolier saoudien d'Abqaiq, et qui avait fait totalement changer de point de vue Mohammed bin Salman, le prince héritier, et qui avait repris langue à cette occasion, en tout cas à partir de ce moment-là avec l'Iran.
On va y venir dans un instant, et avec vous, Dorothée Schmitt, je voudrais qu'on passe d'abord par Emmanuel qui est dans l'Aveyron. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Oui, je me posais la question suivante, est-ce qu'Israël n'est pas un peu en train de jouer contre son camp d'une certaine manière à une échelle un peu historique? Moi, j'ai en tête que le pays a été fondé très très notamment par la création du droit international et de la reconstruction d'un certain monde post-1945, et je me réjouis de cette création de l'État d'Israël dans ces conditions-là. 80 ans plus tard, on est en train de s'apercevoir que Israël fait tout pour détruire ce droit international, puisque toute action depuis notamment 20 mois, mais plus anciennement, mais notamment 20 mois, toutes les actions d'Israël sont opérées complètement en dehors du cadre international, du droit international, que ce soit ce qui se passe à Gaza, où il y a quand même une guerre qui est menée, alors moi j'appelle pas ça guerre, hein, moi j'appelle ça un génocide, qui est menée à huis clos, où même les journalistes qui pourraient rendre compte sont assassinés. Là maintenant c'est l'Iran qui est ciblé, et qui est ciblé uniquement sur la parole d'un des, enfin de l'agresseur, ou de l'État belligérant, d'un des deux belligérants, qui dit je cible des installations militaires. Bon, mais est-ce que c'est ça le droit international? Est-ce que donc pour l'instant Israël est en état de force, clairement, à une domination totale sur, comme vous invitez bien de le dire, sur l'espace aérien, etc. Le problème, c'est qu'un pays ne reste jamais en état de force pendant des siècles. Et quand la force aura tourné et qu'on aura complètement détruit pendant les années qu'on est en train de vivre la toute notion de droit international, et qu'on sera revenu à l'arbitraire, le rapport de force brutal, c'est-à-dire que c'est juste la voix du plus fort qui parle et qui élimine tout opposant, que ce soit à Gaza, en Palestine ou en Iran ou ailleurs. Moi, je ne suis pas du tout un partisan du régime iranien.
J'entends.
Mais là, vraiment, c'est vraiment la loi de la brute, quoi. Celui qui détient la force et qui tape le plus fort. De la part d'Israël, c'est étonnant, en fait, vu l'histoire et vu l'origine du pays. Voilà.
Merci beaucoup, Emmanuel, merci beaucoup. J'ai presque envie, après la question d'Emmanuel, Dorothée Schmidt, de dire, mais de toute façon, le droit international, ça fait quand même un bout de temps. On n'a même pas attendu Israël, au fond, pour le bafouer, non, récemment.
Oui, et puis Israël a son propre droit. Enfin, aujourd'hui, Israël... c'est pas aujourd'hui seulement, ça fait des décennies qu'Israël a divorcé de l'ONU, dont elle considère que c'est une espèce d'officine anti-israélienne qui promeut la solution des deux États, qui cherche à défendre des Palestiniens qui n'existent pas. Et donc, ça n'est pas la question aujourd'hui. En revanche, ce qui me semble très intéressant dans cette séquence qui s'ouvre contre l'Iran, c'est qu'Israël est en train d'opérer quand même un retournement diplomatique. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est que tout le monde condamne les frappes, mais personne ne s'y oppose, et qu'en réalité, l'Iran n'a pas d'amis. Si Israël frappe ce régime qui n'a pas d'amis, elle se fait des amis, en réalité. C'est pour ça qu'on a cette réaction...
Jusqu'à l'extrême de Friedrich Merz,
extraordinaire du chancelier allemand, qui nous dit... il reprend exactement la rhétorique israélienne, qui nous serine toute la journée, nous faisons le sale boulot parce que les autres n'osent pas le faire. Donc, ce sur quoi Israël parie, c'est que l'affaiblissement, un éventuel changement de régime, dont je ne sais pas très bien comment est-ce qu'il peut être conçu, imaginé. Enfin, moi, je vois mal des troupes, même des troupes américaines au sol, arriver à bout de quelque chose après la désastreuse expérience irakienne, même si c'est très différent. Les Israéliens parient certainement sur le fait que les pays arabes, qui, comme l'a dit Armin Arefi tout à l'heure, sont ceux du Golfe, qui sont vraiment tétanisés par une éventuelle montée de violence iranienne militaire contre eux, vont à un moment ou à un autre se résoudre à se réconcilier avec Israël en suivant ce fameux schéma des accords d'Abraham dans lequel étaient entrés les Émirats Arabes Unis. Ça me semble malgré tout assez improbable à long terme, parce qu'aujourd'hui, après l'Iran, c'est peut-être Israël qui a la pire réputation dans toute la région. Évidemment, ce qui est très clair, c'est que le régime de Netanyahou gagne du temps avec cette opération contre l'Iran. Il améliore peut-être sa réputation internationalement, mais la question palestinienne reste intacte, et Gaza, comme vous l'avez souligné en entrée, reste un chancre.
Corentin Célin, dans la manière dont Trump réagit, on ne peut pas s'empêcher de penser effectivement aux accords d'Abraham et aux espoirs que le dealmaker qu'est Donald Trump avait placé derrière les accords d'Abraham, mais pas seulement. Il revient quasiment d'un voyage dans le Golfe où il était très content des deals qu'il avait faits. Et on se dit au fond que cette histoire-là, ça lui casse un peu son jeu, quoi. Ça lui casse son jouet à Donald Trump, parce que sans un Iran qui était un Iran à peu près apaisé, avec un deal en tout cas qui aurait été passé sur le nucléaire, guerre. Tout ce qu'il veut mettre en place, y compris économiquement avec le Golfe, tout ça est un peu remis dans le shaker. Ça doit l'embêter particulièrement, cette affaire-là, lui, là-dessus.
Oui, effectivement, ça l'embête d'autant plus particulièrement que lors de son voyage dans le Golfe, il avait fait un grand discours sur la réinvention de la relation des États-Unis avec cette région, fondée sur une diplomatie uniquement économique et aux antipodes du néoconservatisme de l'époque Bush. Mais néanmoins, justement, c'est ce qu'essaye Trump ces dernières heures. Et apparemment, d'après les informations qui ont filtré, c'est comme ça que Netanyahou l'a convaincu de monter dans le train. C'est que Netanyahou lui a dit, si vous voulez arriver au deal que vous voulez avec les Iraniens, un petit coup de pression par la force, ça ne peut pas faire de mal. Et donc, c'est comme ça que Netanyahou aurait obtenu le ralliement de Trump. Et Trump, on le voit bien, il dit, il n'arrête pas en même temps, bon, si on sort des diverses rodomontades, Trump, il n'arrête pas de dire signer un deal avant qu'il soit trop tard, etc. Donc on voit qu'il n'a pas perdu l'espoir d'avoir enfin un accord sur le nucléaire iranien qui serait... Qui le satisferait. Mais le problème, c'est que l'attaque israélienne a déjà tellement ébranlé, comme le disait Amin Arefi, le régime iranien, qu'on voit mal le régime iranien maintenant venir à Canossa et dire oui, on vous donne.
Mais d'ailleurs, j'allais vous poser la question, Amin Arefi, qu'est-ce qu'il faut penser de cette proposition de négocier dont Trump a parlé cet après-midi, disant j'ai reçu un message des Iraniens disant oui, on veut continuer à négocier. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça?
Ça peut être plausible. Certes, le guide suprême, la plus haute autorité iranienne, a totalement rejeté la proposition de Trump de revenir à la table de négociation pour, dit-il, capituler. Mm-hmm. Qu'est-ce que veut dire la capitulation? Ça veut dire un renoncement à l'enrichissement d'uranium, ce pourquoi l'Iran a investi depuis 20 ans, au prix de nombreuses sanctions internationales. Mais oui, il y aurait des informations selon lesquelles les Iraniens pourraient être tentés par des voies moins officielles de discuter avec les États-Unis. Aujourd'hui, la priorité en Iran, c'est pas la disparition d'Israël, c'est de mettre fin à cette guerre où le régime est très mal en point, notamment, tout d'abord sur le nucléaire, mais également au niveau militaire et politique. Aujourd'hui, les cibles qui sont visées à Téhéran, c'est le quartier général de la sécurité intérieure, c'est le quartier général de la police, c'est la télévision d'État, c'est les sites énergétiques. Il ne reste, je ne vais pas dire qu'il ne reste pas grand-chose, c'est faux, mais on est un peu sur ce qu'on a vu au moment de la guerre d'Israël contre le Hezbollah, la dernière au mois d'octobre dernier, où le Hezbollah n'a pas disparu, mais que tout son arsenal militaire et logistique a été réduit en cendres. Donc voilà. Maintenant, pour revenir à la question de votre auditrice, moi je pense qu'il y a de votre auditeur, pardon. Il y a deux séquences quand même, deux points qu'il faut distinguer. Effectivement, la fuite en avant de Benjamin Netanyahou, la loi du plus fort qui fait qu'aujourd'hui, il n'a personne, et surtout pas un Joe Biden qui n'est plus là pour l'arrêter, le dissuader de frapper l'Iran, ce que Joe Biden avait réussi à faire l'an dernier lors des séquences de frappe représailles irano-israéliennes. Mais surtout, l'Iran... Le programme nucléaire iranien et même le régime des Mollahs, c'est une obsession de Benjamin Netanyahou depuis maintenant, depuis 20 ans. Oui. Et il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou a été l'un des acteurs principaux qui a réussi à convaincre Donald Trump avant même sa élection à la Maison-Blanche de se retirer unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien que respectait l'Iran. Ça, c'était en 2018. Et de la même façon, aujourd'hui, ce que disent les diplomates israéliens, c'est que Israël a vu une opportunité unique pour frapper l'Iran qui découle de l'affaiblissement total de l'axe iranien régional, avec coup sur coup l'affaiblissement du Hamas, le terrassement du Hezbollah et la chute, le renversement de Bachar el-Assad. Donc pour les Israéliens, c'était le moment de frapper. La grande surprise, c'est que c'est pas qu'ils aient frappé, mais c'est qu'ils aient réussi à convaincre Trump de les laisser faire. Parce qu'il faut quand même dire qu'il faut au moins un soutien logistique américain pour frapper, et en termes de renseignement, pour frapper les cibles nucléaires iraniennes.
Après, la question qu'on se pose est de savoir s'ils ont réussi à convaincre Trump de frapper ou pas, ou s'ils ont dit à Trump on va frapper, et qu'il s'est retrouvé de toute façon contraint de dire frapper.
Les informations qui ont été publiées, c'est le 8 juin, en fait, ses principaux conseillers et ministres sur le renseignement, donc en particulier Ratcliffe, le patron de la CIA, ont entouré Trump à Camp David, donc dans la résidence résidence, une des résidences du président des États-Unis et lui ont dit, voilà, on a la certitude maintenant que Israël va frapper, ils vont y aller. Et ils lui ont annoncé ça le 8 juin. Et donc, à partir du 8 juin, Trump devait choisir ou laisser faire les événements se dérouler sans lui ou bouger de position pour s'aligner avec ce que son renseignement lui annonçait comme désormais inéluctable.
Voici une question de Marc qui est avec nous. Bonsoir Marc.
Bonsoir Fabienne Synthèse. Bonsoir à vos invités et à tous. Je rejoins l'avis de l'auditeur précédent et je vais même un peu plus loin pour sortir de la pensée unique occidentale. Le régime iranien actuel est certes détestable et criminel, mais je voudrais savoir au nom de quoi on veut empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique alors qu'on l'accepte pour Israël, dont le régime actuel n'est pas moins détestable ni criminel. Et je rappelle qu'Israël a acquis la bombe atomique de manière clandestine et illégale avec la complicité de la France de la 4e République.
Alors on se souvient de cette période, enfin en tout cas nos livres d'histoire s'en souviennent effectivement de cette période-là. Dorothée Schmidt, cet argument-là, on l'entend souvent et moi j'ai même l'impression, puisqu'on fait beaucoup de retours en arrière en ce moment à 2003 et à l'Irak, que c'est aussi une leçon de cette période-là. Si on avait eu la bombe atomique... on aurait eu d'autres arguments, en fait. Et c'est ça, l'argument iranien aussi, et la raison pour laquelle ils s'accrochent à leur programme nucléaire, non ?
Oui, ce qui est sûr, c'est que ce débat sur l'existence de l'arsenal israélien, on ne l'a jamais eu. Mmh. On n'a jamais eu le droit de l'avoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va l'avoir. Pourquoi aussi ? Parce que d'autres pays de la région vont se poser la question... de passer à un équipement militaire.
Parce que justement, certainement. Et la question de Marc, parce que ça, pour le coup, on l'a eu, cette question. Pourquoi est-ce qu'on empêche l'Iran, effectivement, d'avoir un arsenal militaire, après tout ?
Peut-être qu'on va vers une banalisation de ce débat, en réalité, à l'échelle de la région, si on n'a pas d'architecture de sécurité qui fonctionne, qui soit aujourd'hui possible de mettre en place, si effectivement on n'arrive pas à faire cette réintégration d'Israël dans l'environnement régional. Les Saoudiens seront certainement en première ligne pour réfléchir à la nécessité d'avoir eux-mêmes la bombe. Les Turcs pourrait venir également, donc c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte, ouverte et fermée en fait dans la discussion avec l'Iran pendant très longtemps, puisqu'on a eu toute cette idée que l'Iran allait se maintenir au seuil. Mm-hmm. Là quand même, le fait que les dernières inspections de l'AIEA ont montré que l'enrichissement avait repris d'une manière qui allait au-delà de ce qui était autorisé a évidemment constitué aussi une justification pour l'ensemble des spectateurs affolés de cette course aux armements dans la région, de cette nucléarisation de la région.
Armin Arefi, puisqu'on parle beaucoup de savoir ce qui se passerait si le guide suprême était assassiné, moi je me demandais si et comment, de toute façon, un autre régime pourrait sortir de terre, si je puis dire, en Iran. Est-ce que là aussi, c'est vraiment de l'ordre du fantasme ? Il n'y a rien de possible pour qu'autre chose sorte de terre en Iran aujourd'hui ? Ou est-ce que cette possibilité existe ?
Écoutez, je ne suis pas Madame Irma. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Revenons par exemple sur l'exemple de la Syrie. Le renversement surprise de Bachar el-Assad, on a eu quand même une rébellion armée, djihadiste, anciennement membre d'Al-Qaïda, qui a pris le pouvoir. Qu'y a-t-il aujourd'hui comme mouvement rebelle armé, ou en tout cas mouvement d'opposition armé, au Mollah sur le territoire iranien ? Moi je vois les Kurdes, dont certains ont des velléités séparatistes, à l'ouest, avons des groupes proches, plus ou moins proches du PKK, qui s'est d'ailleurs dissous en Turquie, qui a accepté la dissolution. Les Baloutches, donc cette minorité sunnite au sud-est. Certains, ils ont un réseau en Iran, à quel point, c'est la grande question, membre des Moudjahidines du peuple, ce groupe d'opposition qui a fait la révolution avec on va dire, libéraux et les islamistes contre les royalistes et qui se sont fait avoir derrière et qui sont passés à la lutte armée. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, ont démantelé leur arsenal. Et en Iran, ils en ont très peu ou pas. Il y a très peu d'options. Il y a une détestation extrêmement importante de près de, on va dire, 80% de la population, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens se posent la question... Mon pays est en train de se faire bombarder, il y a des morts, une majorité de civils. D'après les chiffres officiels, c'est 224 morts. Aujourd'hui, d'après certaines ONG, on parle de 585 morts, donc une majorité de civils. Mais comment renverser les mollahs, alors qu'à chaque fois qu'ils sont descendus dans la rue au cours des dernières années, ils ont été réprimés dans le sang ?
et que, par ailleurs, les forces de sécurité iraniennes, gardiens de la révolution, en termes en nombre, ministère des renseignements, forces anti-émeutes, miliciens Basiji, restent en nombre présents en Iran. Donc ils gardent quand même une force de répression, le régime intact, d'ailleurs qui devrait se renforcer.
Et cette force de répression existe quand même si le guide suprême tombe.
Si le guide suprême est éliminé, bien évidemment que le régime aura perdu sa tête et qu'il aura la plus grande difficulté à trouver un remplaçant légitime, y compris si on parle de son fils, le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, qui aurait été plus ou moins désigné d'après les rumeurs. On n'en est pas sûr. Il n'y avait pas encore de confirmation sur le fait qu'il serait le successeur. La prochaine crise avant la frappe israélienne, elle était désignée comme étant celle de la mort du guide et de sa succession. Aujourd'hui, ça peut être accéléré, mais de toute façon, une grande question se poserait à ce moment-là quant à la survie du régime, et je ne suis pas certain qu'il pourrait survivre dans ces conditions-là, car tout remplaçant n'aurait pas la légitimité révolutionnaire de 79 du guide suprême. Donc non, il y a une grande interrogation. On a un fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui, depuis l'étranger où il vit depuis 45 ans, appelle le peuple à se soulever. Il a certains partisans en Iran, une majorité de la population, je ne suis pas sûr. En fait, on ne sait pas, il n'y a pas de véritable sondage. C'est une des personnalités fortes de l'opposition.
Pardon, Armin Arifi, ce que j'entends, c'est est-ce qu'il y a une société civile parce qu'on la connaît, la société civile. On sait qu'elle est capable de sortir. Exactement. Mais à ce point-là,
le problème, c'est qu'elle n'est pas organisée, qu'elle n'est pas structurée. Alors moi, j'ai des opposants au régime, y compris qui ont fait de la prison, qui me disent, d'ailleurs, on sort un numéro spécial demain dans Le Point sur le régime au bord de la rupture, le crépuscule des mollahs, qui nous disent, ne vous en faites pas, on est déjà en train de gérer la situation, de regarder exactement où sont les bombardements, et puis on est prêt pour la suite. Mais moi, j'ai les plus grands doutes quant à cette affirmation, car aujourd'hui, le mot d'ordre chez tous les Iraniens à qui je parle, c'est sauf qui peut, essayons de partir de Téhéran, d'ailleurs Téhéran que Donald Trump lui-même a appelé à évacuer, on parle quand même d'une ville de 12 millions d'habitants, où beaucoup d'Iraniens restent, et meurt sous les bombes actuellement.
Absolument, il faut aussi d'abri, de toute façon, il faut bien se mettre ça aussi dans la tête.
Israël. Et exactement. Ça, c'est une question très importante, parce que la différence, je pense, entre la société israélienne et la société iranienne, au-delà de l'État, de l'histoire, c'est qu'on a quand même une société où, israélienne qui est quand même majoritairement favorable à son État, à son gouvernement, alors que c'est l'exact opposé aujourd'hui en Iran.
On est en train de parler de ce sixième jour de cette guerre entre l'Iran et Israël. Au téléphone sonne ce soir avec Armin Arefi, qui est grand reporter au Point, avec Dorothée Schmitt, qui est responsable du programme du Turquie-Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales, avec Corentin Célin, qui est spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire agrégé, et avec vous, Benoît, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne Saintès, et bonsoir à vos invités.
Bonsoir à vous.
J'ai deux questions simples et courtes. On entend beaucoup Donald Trump, on entend beaucoup les Européens sur ce conflit, mais pourquoi n'entend-on pas Vladimir Poutine? Et la deuxième question, est-ce que ce conflit en Iran peut avoir une influence sur le conflit en Ukraine, dans la mesure où, il a été dit que l'Iran est un partenaire de la Russie et fournissait des drones aux Russes. On peut supposer que, vu la situation, les Iraniens vont garder leurs drones. Donc, est-ce que ça pourrait avoir une influence petite ou moyenne ou grande sur le conflit en Ukraine?
Voilà. Dorothée Schmitt, est-ce que je peux vous sortir de votre zone et vous demander pourquoi Vladimir Poutine regarde et compte les points?
Vladimir Poutine a condamné les frappes. Je pense que l'analyse des Russes, c'est qu'il s'agit d'un développement à partir du 7 octobre et de cette espèce de tourbillon de catastrophe qui est en train de s'organiser au Moyen-Orient, y compris du fait qu'ils ont été chassés de Syrie par le changement de régime. Donc pour le moment, la Russie, elle doit voir comment va se dessiner ce fameux nouveau Moyen-Orient que Netanyahou nous a proposé, pour éventuellement ensuite réfléchir à la façon d'y revenir. Mais Poutine se propose aussi de jouer les médiateurs entre Israël et les Iraniens.
Il a même été suggéré que ce soit lui qui s'en occupe, et suggéré, si je ne m'abuse, par Donald Trump, est-ce que je me trompe? D'où venait la suggestion de mettre Poutine dans ce...
Par rapport dans
cette discussion, pardon. Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, la dernière déclaration, c'est Trump a dit « Thank you very much, merci beaucoup Vladimir, mais occupe-toi d'abord de tes problèmes et après on verra.
Bah, » écoutez, là-dessus, Corentin Célin, je me demandais comment Trump était en train de peser les choses et jusqu'à quel point il sait qu'il met en danger ou pas sa présidence en entrant ou pas dans ce conflit, et surtout jusqu'à quel degré?
Alors, et c'est lié aussi à la... Parce que l'auditeur posait la question sur la relation avec la guerre en Ukraine. Incontestablement, il y a quand même, et on le voit dans les sondages d'opinion, un début de doute sur les capacités en politique extérieure de Donald Trump par rapport à sa capacité à agir réellement, au-delà des paroles, au-delà de la mise en spectacle. Je veux dire, pour l'instant, 6 mois de présidence et un échec patent sur l'Ukraine, si là, sur cette crise iranienne, il apparaît une fois de plus pas efficace, d'active, ça pèsera effectivement sur le regard qui est posé sur sa présidence. Sauf que il a un vrai problème politique, et c'est pour ça qu'on a vu hier, par exemple, son vice-président Vance, dans un mouvement assez original, faire une sorte de service après-vente, expliquer ce que faisait le président. C'était un peu bizarre comme de voir le vice-président sur les réseaux sociaux expliquer ce que pensait, ce que faisait le président. Et qu'est-ce qu'a dit Vance? Il a dit « Oui, je sais que ça ne correspond pas à ses promesses, c'est-à-dire ses promesses d'America First, de ne plus aller sur ces conflits extérieurs lointains qui ne concernent pas les États-Unis au premier chef, mais il a dit « Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait, il le fait parce que, en fait, il faut absolument empêcher l'Iran d'avoir la bombe. » Mais cet argument-là ne suffit pas à convaincre certains de ses partisans les plus attachés à l'America First et les plus attachés au renoncement aux guerres extérieures. Et Trump est bien conscient, il voit bien les dissensions qui sont en train de se passer, même au sein même, d'ailleurs, de son équipe gouvernementale.
Mais est-ce qu'il a plutôt intérêt à choquer sa base MAGA, qui est effectivement son fuel réellement, ou plutôt sa base fondamentaliste, très religieuse, etc., qui, elle, voit plutôt d'un bon œil qu'on aille attaquer l'Iran. Donc, qu'est-ce qui pèse politiquement pour lui derrière?
Alors, exactement, parce qu'on a vu deux choses. On a vu donc l'ambassadeur américain en Israël, donc Mike Huckabee, qui est un pasteur, ancien gouverneur d'Arkansas, qui a dit, alors quand même, c'est quand même, là aussi, quand même, on vit des moments inédits, qui a dit que Trump était envoyé par Dieu et qu'il était conseillé par Dieu pour agir en faveur d'Israël, donc effectivement là, et qui représente ce courant du sionisme chrétien qui veut hâter les choses au Proche-Orient pour hâter aussi le retour, la seconde venue du Christ. Et de l'autre côté, on voit quand même, et il ne faut pas le négliger, la directrice du renseignement national qui est Tulsi Gabbard, qui a essayé d'empêcher Trump de rentrer dans le conflit en faisant, c'est quand même là aussi très surprenant, en faisant une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire assez des guerres extérieures, assez des faiseurs de guerre, président Trump, ne vous laissez pas
faire. Il a balayé d'un trait de plume quand même.
Il a balayé d'un trait de plume, ce qui est quand même ahurissant. Donc on voit qu'il est complètement partagé, mais à un moment donné, justement, il va devoir choisir. Et le problème, et peut-être que ça devient une constante de la présidence Trump, parce qu'on voit aussi, on revient à l'Ukraine, c'est la question qui nous était posée, ça fait 4 mois qu'il dit tout, dans 15 jours, si Vladimir Poutine, je verrai s'il veut faire la paix. Donc ça fait 4 mois qu'il dit dans 15 jours. Bah, là, c'est pareil. À un moment donné, il va devoir arbitrer. On voit qu'il a énormément de mal à le faire entre les factions de sa coalition politique.
Retour au standard où nous attend Véronique. Bonsoir Véronique.
Oui, bonsoir Fabienne, merci de prendre mon appel. Moi, je voudrais parler, alors j'ai une question que j'ai appelée naïve, je voudrais parler de la diplomatie européenne. Alors, je sais bien que l'Europe n'est pas un pays, nous sommes 27, c'est compliqué de se mettre d'accord, mais je suis très étonnée et un petit peu énervée de la mollesse de la diplomatie vis-à-vis de ce conflit, vis-à-vis de va-t-en-guerre. Comme l'Israël, qui, comme le disait un auditeur tout à l'heure, se méprise totalement le droit international. Et nous ne sommes pas fichus de nous exprimer de manière forte et unie. J'entends la France, j'entends l'Allemagne. Je ne sais pas si d'autres pays européens se sont manifestés. Je n'entends pas les instances européennes. Rien du tout, c'est un silence extraordinaire. Et voilà, je voudrais savoir si... ce qu'en pensent vos invités sur cette mollesse de la diplomatie européenne.
Armin Arefi, est-ce que c'est le mot mollesse que vous employeriez aussi comme notre auditrice?
Alors je ne suis pas d'accord avec notre auditrice,
avec Véronique.
C'est-à-dire qu'il y a une position en fait très claire qui a été clarifiée et par Emmanuel Macron, et par le chancelier Merz, et par la présidente de la Commission européenne, et par la nouvelle haute représentante pour les affaires extérieures de l'Union européenne, Madame Kallas, qui est le soutien inconditionnel à la sécurité d'Israël, qui a le droit de se défendre. D'ailleurs, la France elle-même a déjà participé
à intercepter des missiles iraniens, non pas lors de cette guerre, mais lors des précédentes frappes iraniennes. Et d'ailleurs, c'était pas une surprise. Ce n'est pas une surprise qu'on soit aux côtés d'Israël, qui est notre allié dans la région. La surprise et la contradiction assez forte, que l'on a d'ailleurs observée à Gaza et dans d'autres conflits, c'est que là, pour le coup, Emmanuel Macron et toutes les personnes que j'ai citées ne sont pas du tout du côté du droit international, où encore une fois, on a un État qui a attaqué un autre État souverain, quelle que soit la nature de son régime, et qui aujourd'hui est en train, il faut le rappeler, de frapper des sites nucléaires avec tous les dangers que cela comporte pour les populations alentour. Donc c'est un nouveau flagrant délit de deux poids, deux mesures. On peut on le constate, on peut le condamner, mais c'est la réalité et je ne pense pas que ça change dans un avenir proche.
Dorothée Schmidt, vous vouliez intervenir et c'est vous qui avez la conclusion.
Je voulais juste dire que les États membres de l'Union européenne, dans leur très grande majorité, ont condamné les frappes israéliennes. On a seulement la France, l'Allemagne et la Tchéquie qui ont mis en avant le droit d'Israël à se défendre. Cette idée de défense préventive. Donc effectivement, on a des clivages au sein de l'UE. Quand votre auditrice, quand Véronique dit qu'elle entend l'Allemagne et la France, c'est très intéressant parce que ce ne sont pas les voix qui sont majoritaires au sein de l'UE. Et je voudrais conclure peut-être sur la crise incroyable du multilatéralisme qu'on est en train de vivre, parce que quand même, quand on parlait du rôle de la Russie, dans les négociations qui ont amené à l'accord sur le nucléaire iranien en 2015, a été extrêmement active, tout comme la Chine. Une fois que Trump a répudié cet accord, cette fameuse plateforme du P5+1, donc de ces Européens et des États-Unis, de la Chine et de la Russie, qui avaient travaillé pour une solution sur le nucléaire iranien, a été complètement mise de côté. Et on a eu une bilatéralisation de ce dossier, avec effectivement des États-Unis qui se trouvent être les otages d'Israël là-dessus. Donc on n'a pas de solution davantage sur la question du nucléaire iranien aujourd'hui que la destruction, au-delà des sites nucléaires, d'une partie de l'Iran, avec l'idée d'un changement de régime. Donc on va bien au-delà de ce qu'on faisait. Et ça signifie qu'on est vraiment entré dans une énorme crise du multilatéralisme, avec malgré tout le risque de voir les Occidentaux marginalisés dans ce nouveau monde.
Et la photo, très rapidement, Corentin Célin, de cette crise du multilatéralisme dont parle Dorothée Schmidt, c'est Donald Trump qui quitte le G7, parce qu'au fond, quand il quitte le G7, c'est ça qu'il dit. Il dit, de toute façon, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas, ce multilatéralisme.
Exactement.
Et il a mieux à faire, et c'est d'où la réplique d'ailleurs très cinglante au président Macron. C'était ça que ça voulait dire, c'est-à-dire, laissez-moi mener les affaires, je suis bien meilleur que vous, vous n'êtes pas invité à ma table. Et d'ailleurs, on voit un Trump qui s'illustre dans cette surpuissance, qui aime bien se mettre en scène dans cette surpuissance, sauf qu'elle n'est pas suivie d'action pour l'instant, et c'est ça le paradoxe.
Allez, on en refera des téléphones sonnes pour essayer de remettre tout ça au point sur la table. Merci beaucoup à tous. Tiens, Armin Arafi, puisque vous l'avez cité et que ça sort demain, le crépuscule des Mollahs, c'est la une du Point. Merci beaucoup, merci à tous. La question des petits bateaux ce soir, c'est celle d'Augustin.
Bonjour, je m'appelle Augustin et j'ai 8 ans. J'aimerais savoir comment est l'intérieur d'un tank. Merci beaucoup.
Allez, la réponse dans 3 minutes.